Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt vous propose un nouvel épisode, un mercredi sur deux, et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes, et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Claire. Claire nous parle depuis Montréal, au Canada, du chemin qu'elle a parcouru pour devenir maman. Dans cet épisode, Claire partage le parcours PMA qu'elle a suivi avec son compagnon entre Grenoble et Lyon entre 2010 et 2015. Aujourd'hui, maman de 3 jeunes enfants et installée au Canada, Claire nous livre avec bonne humeur ses joies et doutes. Elle nous parle aussi de l'histoire incroyable de ses 2 petits derniers, ainsi que de son couple et de comment elle a décidé de vivre cette aventure en y intégrant son entourage. Alors, sans plus attendre, voici ma rencontre avec Claire. Bonjour Claire et bienvenue sur le podcast.
Merci Anne-Claire.
D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vous parle de la rive sud de Montréal, au Canada.
Très bien, en plein hiver. On est début janvier, au moment où on se parle.
On a 2 degrés aujourd'hui, c'est comme du jamais vu là.
Sympa. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as? À quoi ressemble ta famille? Tu peux nous dire un petit peu plus?
Alors moi, j'ai 33 ans, donc je suis française, on s'est expatriée ici. Dans la vie, je suis enseignante, donc cette année, j'ai des 6e années. Puis je suis maman de 3 enfants, donc un garçon de 6 ans et des jumeaux, fille garçon de 4 ans.
On va y revenir, merci beaucoup. Alors, tu le sais, le but de ce podcast, donc, c'est de libérer la parole autour de la PMA et des questions de fertilité. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre, justement, tu as essayé d'avoir un enfant? Tu étais seule, tu avais avec ton compagnon, comment ça s'est passé?
Alors, à l'époque, c'est juste après mes études, j'étais encore à l'école pour devenir enseignante. Puis, on avait très envie, j'étais avec mon compagnon qui aujourd'hui est mon mari. On avait très envie de fonder une famille. On s'est dit, ça y est, les études sont terminées, on va y aller. Donc, c'est là où, ben, comme tout début, arrêt de la pilule, puis ben, on se dit que ça va arriver dans 1 mois, 2 mois maximum.
Eh ouais. Alors, c'était quand? Voilà. C'était il y a combien de temps cet essai pour premier bébé?
Ben, j'ai arrêté la pilule tout début de l'année 2010.
D'accord. Donc, il y a pile 10 ans, quoi.
Il y a 10 ans, c'est ça.
Ok.
Waouh.
Cela ne nous rajeunit pas.
Non, pas du tout.
Alors, donc, du coup, tu as de la pilule. Vous commencez à essayer de concevoir un petit bout. Et comment ça se passe alors?
Bah oui, j'arrête la pilule en 2010. Et puis moi, bah, toute innocente, premier essai, je me dis, ça y est, dans 2 mois, je vais être enceinte. Donc, je commence, chose à ne pas faire, à m'abonner à tous les magazines par an, 8 mois, 9 mois, toutes ces petites choses-là qu'il ne faut pas faire. Puis, ben, en fait, ben, ça ne s'est pas fait, ça a mis des mois. Le seul souci que j'ai eu, c'est que mes règles ne sont jamais revenues après l'arrêt de la pilule.
Ah, ok.
Donc, en fait, elles ne sont jamais revenues. Mais ça, moi, je ne le savais pas que tout ça s'était lié. Donc, ben voilà, pendant des mois, on a essayé jusqu'à que j'en parle à mon médecin puis qu'on commence un petit peu à se poser des questions.
D'accord. Et justement, en fait, le fait de ne pas avoir tes règles, tu ne savais pas où tu en étais dans ton cycle même?
Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, je mettais ça sur le coup de l'arrêt de la pilule. Je l'apprenais depuis très longtemps, depuis que j'avais 16 ans. Donc, je me suis dit, bah, c'est normal. Ça ne veut pas dire que j'ai peut-être... Ça veut pas dire que j'ovule pas. Enfin, je connaissais tellement rien. Pour moi, c'était... ça allait revenir, ça allait arriver, puis ça allait marcher. Mais en fait, c'est ça. Le premier pourquoi on est allé consulter, c'est les règles qui ne revenaient pas.
D'accord.
Après des mois et des mois d'arrêt de pilule.
Alors, tu es allée voir un gynéco, un médecin généraliste?
Bah, c'était mon médecin généraliste qui était aussi ma gynéco, une personne de confiance. Puis, en effet, elle a dit, ben non, après la pilule, les règles sont censées se remettre, se régler. Donc, on a commencé par la toute première chose qu'on fait souvent avant d'entamer un parcours, c'est la prise d'un médicament pour re-régler tout ça, donc le fameux Duphaston. Puis, c'est ça, censé refaire des cycles artificiels un petit peu pour pouvoir voir quand est-ce qu'on ovule, puis essayer d'arriver à faire un petit bout.
D'accord, et alors comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu réagis? Ça t'aide là-dessus?
En tout cas, ça refait des règles, ça refait des cycles. À côté de ça, le médecin te demande de faire des courbes de température pour essayer de voir quand est-ce que tu ovules, donc des choses vraiment un peu lourdes quand même au début. Puis, toujours rien. Donc, mais ça faisait plusieurs mois, je pense qu'on était à 7-8 mois là, quand on a commencé à consulter. Elle a dit de toute façon, avant un an d'essai, c'est normal, on continue, puis on voit ce que ça fait. Donc, on a continué comme ça pendant un an.
D'accord, ok. Alors, vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là?
Eh bien, on était montagne russe, donc c'est-à-dire que... À chaque début de cycle, on y va, on est confiant, on est super optimiste. En plus, on en avait très envie, donc on s'y voyait déjà. Puis, quand les règles reviennent, désillusion, donc rien ne va plus, on n'y arrivera jamais. Puis, ça a fait ça pendant plusieurs mois, vraiment le début des montagnes russes. Puis, on était loin de se douter que c'était que le début.
Ouais.
Mais voilà, première difficulté en tout cas pour nous. Après, on se disait que on avait le temps, c'était notre premier, on était jeunes, ça allait venir. Voilà, on était en bonne santé, on s'est dit ça va venir.
Et alors donc du coup, au bout d'un an, vous retournez voir le médecin qui vous réoriente ou comment ça se passe?
Exactement, au bout d'un an, de toute façon j'avais un suivi régulier avec elle vu que c'était mon médecin généraliste. Puis au bout d'un an, elle décide de nous faire consulter au service de PMA. De la ville où on habitait. Donc là, elle nous a dit, c'est vrai que ça fait un an, vous êtes dans les temps pour pouvoir avoir accès à un rendez-vous. Donc là, on était janvier 2011, mon premier rendez-vous PMA. Donc là, c'est un rendez-vous de couple pour voir un petit peu quels sont les problèmes, puis pour lancer les batteries d'examen, les bilans hormonaux, pour essayer de voir ce qui cloche chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux.
Ok, donc du coup, vous vous lancez donc dans cette batterie d'examen. Ça vous prend combien de temps à peu près? Ça peut prendre pas mal de temps.
Ça peut prendre pas mal de temps. Du côté de mon conjoint, c'était très rapide. Puis lui, tout allait bien. Donc ça, c'était premier soulagement pour nous. Après, du côté féminin, il y a beaucoup plus de tests à faire. Donc, puis c'est avec des petites opérations. Il y a une biopsie de l'endomètre pour éliminer l'endométriose, qui pourrait être une cause. Ensuite, il y a plein de choses au niveau des ovaires qui ont été faites aussi. Moi, ça a pris plusieurs mois. Je dirais que avril-mai, de mon côté, c'était fini. On avait comme les réponses là. Alors que mon conjoint, lui, ça prenait au bout d'un mois.
C'était C'est pas facile, ça.
On était super contents de savoir que de son côté, tout allait bien. Puis lui était vraiment soulagé aussi. Et en effet, c'était plus de mon côté. Donc, ça prenait plus de temps. On voulait vraiment savoir ce qui se passait. Puis, quand ça tombe, on le sait, c'est clair, c'est net. Donc, voilà. Après, on peut plus facilement nous
bien
orienter.
Bien sûr, ouais. Et alors, du coup, c'était quoi les résultats? Donc, il y avait quelque chose de ton côté?
Alors, moi, il y a deux choses de mon côté. Oui, j'ai ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça, c'est assez courant. On en entend de plus en plus parler. C'est mes ovaires qui sont, qui ont comme des mini-kystes. À l'intérieur, puis du coup, tout ça, ça fait des mauvaises ovulations. J'ovule très, très mal.
Rarement
ou pratiquement pas du tout, c'est ça. Donc, il y a ce premier problème qui a été décelé très, très vite. Là, on a dit, OK, on commence le protocole PMA pour cette raison-là. Et en plus de ça, j'ai eu un examen des trompes très douloureux.
Ah oui, je vois ce que c'est.
Pour celles qui sont passées.
Comment ça s'appelle déjà?
C'est ça. Mais on nous prévient que c'est très douloureux, puis en effet, ça l'est, mais on est obligé de passer par là. Et là, ça montre, en effet, on le voit très bien, ils nous injectent un produit dans les trompes, puis moi, j'ai une trompe d'un côté où ça marche pas du tout. Pour essayer d'avoir un bébé, on peut pas lancer un pronostic sur c'est pas bien grave, de toute façon ça va se faire dans la trompe droite plutôt que dans la trompe gauche. Donc moi j'avais encore moins de chances d'y parvenir vu que une de mes deux trompes ne marchait pas du tout. En gros, c'était impossible d'avoir un ovule qui passe, qui fonctionne, les spermatozoïdes qui le rejoignent, ça marche.
Ouais, statistiquement, c'était pas évident. Quoi.
Voilà. C'était pas évident, mais au moins on était heureux dans notre déception parce qu'on avait des réponses enfin. C'était pas juste du temps qu'il fallait nous laisser, c'était aussi un petit problème auquel il fallait répondre. Donc pour nous, on mettait enfin des mots sur mais pourquoi ça fait un an et demi, bientôt deux ans qu'on essaye puis qu'on y arrive toujours.
D'accord.
Donc voilà, quand même un premier soulagement malgré tout.
Bien sûr, non, c'est clair qu'avoir des réponses, c'est important. Et alors donc du coup, là, vous êtes en France d'ailleurs au moment de tous ces examens, de ce premier protocole. Vous vous lancez donc du coup dans un premier protocole. Qu'est-ce que les médecins vous conseillent? Est-ce qu'ils sont confiants? Comment ça se passe? Vous êtes un peu accompagnée là-dessus?
Alors, on est super bien accompagné. Moi, j'ai une très belle expérience PMA dans le sens accompagnement. C'est-à-dire qu'on est entouré par des médecins, par des psychologues. On a des petites réunions de couple pour parler de nos impressions, de ce qui va pas. Vraiment, ce côté-là, rien à redire. Eux, tout de suite, quand ils ont vu les deux problèmes, ils nous ont orientés vers les stimulations ovariennes. Donc, essayer de faire réagir mes ovaires, de me faire ovuler pour que ça fonctionne. Donc, on est parti là-dedans. Donc, ça, c'est comme la première étape pour la PMA. Mais avant de nous lancer là-dedans, on a eu beaucoup de rencontres avec la psychologue pour justement savoir comment ça va, parce qu'il faut que le mental soit bon pour se lancer là-dedans. Donc, comment ça va, pour envisager aussi la suite, tous les protocoles à venir, si ça ne fonctionne pas. Jusqu'à l'adoption, c'est-à-dire qu'il nous parle vraiment de tout.
De toutes les options.
On a toutes les options, on est super bien accompagnés, donc c'est vrai qu'au début, ça fait vraiment bizarre. Quand au premier rendez-vous, on nous donne des papiers pour l'adoption, on se dit que oh, c'est vraiment dur, mais on se sent vraiment encadré. Donc nous, on partait avec une première option, si on peut dire, qui était la stimulation. Donc ça se fait de la maison, hein. C'est vraiment comme le premier protocole, il n'y a rien qui se fait à l'hôpital. Donc, on est parti sur ça, puis on en a fait 5 au total.
Donc, 5 cycles, tu veux dire?
Non, parce qu'on fait des pauses. En fait, les stimulations, c'est... on vient faire des injections.
C'est des piqûres ou...
C'est les piqûres, c'est ça. On vient faire des injections pour comme venir stimuler mes ovaires, les faire ovuler. Donc, il y a une infirmière qui vient à la maison pour faire des piqûres à des jours vraiment précis. Il y a des suivis par écho pour aussi mesurer que tout va bien, que l'ovaire réagit bien. Et puis après ça, il y a le déclenchement. Donc, c'est une autre injection faite par l'infirmière pour dire « là, c'est bon, là, tu ovules. Donc là, il faut avoir des rapports dans les deux jours qui arrivent. » Et puis, c'est parti. C'est vraiment comme ça fonctionne. Là, on perd toute intimité, tout côté…
spontané.
Année, vraiment, et ça c'était un petit peu difficile, vraiment.
Comment est-ce que ton compagnon le vit d'ailleurs?
Très mal, c'est-à-dire que pour lui là c'était vraiment, on avait un coup de fil de l'infirmière qui nous disait là on a eu les résultats, là pendant deux jours faut y aller. C'était très difficile, c'est-à-dire que ça devenait vraiment mécanique, on avait de la misère à mettre le plaisir avec ça, mais on avait tellement envie d'avoir ce petit boost, ça nous a pas refroidi pour autant, mais c'est très particulier. Faut l'avoir en tête aussi, c'est vrai que je pense qu'il faut être très très soudé avec son compagnon et se dire on traverse ensemble cette épreuve-là, puis c'est ce qu'on a fait.
Et alors du coup, qu'est-ce que ça donne cette première stimulation ovarienne?
Alors la première, la deuxième, puis toutes les autres, ça n'a vraiment pas fonctionné, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à me faire ovuler, à part pour une où ça n'avait pas fonctionné. Mais j'avais mes règles en bout de ligne, donc là encore les énormes montagnes russes, parce que pour nous les stimulations c'était sûr que ça allait marcher, parce que là on était sûr que j'avais ovulé. Donc on s'est dit on a ça en plus par rapport à avant, donc on était super optimistes et du coup encore plus déçus quand les règles revenaient. On a fait des pauses, c'est-à-dire qu'il y a des cycles où on ne l'a pas refait tout de suite parce que physiquement et mentalement on en avait besoin. Mais on en a fait 5 avant du coup de changer d'option par rapport à ça.
D'accord. Alors en fait, c'est quoi? C'est les médecins qui vous disent, ça fait 5 cycles, donc pas forcément de manière continue. On va envisager d'autres options ou est-ce qu'eux, ils étaient prêts à continuer? C'est vous qui avez dit, on aimerait bien voir autre chose?
Vraiment, Non, en fait, les médecins, ils essayent. Donc, ils disent, on va jusqu'à 6. Nous, la sixième, il se trouve qu'on ne l'a pas faite parce qu'entre-temps, on a déménagé sur Lyon. Donc, on a changé de centre de PMA. À l'origine, on était à Grenoble. Mm-hmm. Donc, ça faisait vraiment plus loin de garder la même équipe. On a comme migré sur Lyon. Mm-hmm. Et là, j'ai changé de médecin et ça a changé du tout au tout, en fait, la façon de faire. C'est-à-dire que donc c'était une spécialiste de l'infertilité, super médecin. Et en voyant mon examen des trompes, qui n'allait pas, ce que j'avais fait au tout début, elle a dit, mais là, en gros, on perd du temps avec les stimulations. Alors là, elle nous a dit ça, douche froide, on s'est dit, ben, c'est pas comme si on venait d'en avoir 5. Ouais. Puis en fait, elle nous explique que la stimulation, ça n'empêche pas qu'ensuite l'embryon, il doit remonter la trompe. Et que moi, dans un cas sur deux, ben, ça peut pas le faire de toute façon. Puisque j'ai une trompe qui a un souci. D'accord. Donc là, elle dit, en fait, le souci, c'est pas de... On va même pas essayer d'aller faire des inséminations, c'est-à-dire d'aller mettre directement les spermatozoïdes dans l'ovule. Vous, on passe direct à l'étape, on va mettre l'embryon dans votre utérus. Donc là, elle nous dit, moi, je saute toutes ces étapes-là, on passe à la fécondation in vitro du fait du problème de trompe.
Comment vous réagissez à tout ça?
C'est un protocole plus lourd, puis c'est surtout, au début, on a de la colère, on a de la déception, puis on a de la joie. On a de la colère parce qu'on se dit, ça fait quand même 5 essais qu'on fait de stimulation, c'est pas rien pour le corps, pour le mental, puis tout ça, on était comme un peu à bout, là. On a de la déception parce que du coup, y a un procédé qui marche pas, on passe à un autre quand même plus invasif. Mais on a de la joie parce qu'on se dit bon, là,
ils savent ce qu'ils font, quoi.
En gros, tous les problèmes vont être résolus, quoi. Puis ils savent ce qu'ils font, ça bouge. Nous, on avait vraiment besoin que ça bouge. Donc, on est parti confiant, comme toujours. De toute façon, on est deux personnes très optimistes, très positives. Puis oui, on a eu des coups de mou, mais on était très entourés. Nos familles étaient au courant. Puis du coup. Allez, on y va. On découvre la FIV. Voilà.
D'accord, ok. Alors, donc, du coup, la FIV, il n'y a pas de nouveaux examens à faire. Vous êtes prêts à vous lancer?
Ouais, on a tous les examens. Les seules choses à faire, c'est qu'on refait une stimulation avant de faire la FIV pour que mon corps soit comme si j'étais prête à concevoir, en fait, soit en ovulation. Et mon conjoint, de son côté, doit faire un prélèvement de spermatozoïdes. En laboratoire. Donc là, encore un coup dur pour lui parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire pour les hommes. Là, c'est quelque chose de très particulier. Hein. Pour celles qui l'ont vécu, pour les couples qui l'ont vécu, nous, on a été ensemble dans la salle pour le prélèvement. C'est vraiment quelque chose. Là. Heureusement, il a eu à le faire qu'une seule fois. Donc, les spermatozoïdes étaient au laboratoire. Moi, j'ai subi une opération pour faire du coup une ponction de mes ovules. Donc moi j'ai été endormie, je sais qu'il y a les deux qui se font, ça peut être une anesthésie locale ou générale, moi c'était générale.
Okay.
Donc ils en ont prélevé 6 et ensuite en laboratoire ils s'occupent de faire les embryons et nous on a eu 3 beaux embryons qui sont ressortis de tout ça, donc 3 embryons qui pouvaient être insérés dans mon utérus un par un ou deux par deux, pas plus. Dans mon cas, puis on a décidé d'en mettre un juste après.
Ok, et alors, vous repartez ?
Ouais, là on repart, tout est prêt, puis ils nous appellent une fois que le travail en laboratoire est fini. Mm-hmm. Là, c'est une histoire de quelques jours, hein. L'embryon doit être à un certain stade pour être réimplanté dans l'utérus. Mm-hmm. Donc ils nous appellent, puis ils nous disent, demain vous venez, on fait le transfert. Donc là, il faut aussi avoir... un travail qui le permet.
Ce que j'allais dire, ouais, faut pouvoir s'absenter facilement. Hein.
C'est vraiment ça. En plus, moi, j'enseignais, donc pas de jour de congé forcément à poser, mais une super directrice, je la remercie encore, qui était au courant de mon histoire, puis qui savait très bien, quand il y avait des périodes un peu difficiles comme ça, où j'étais amenée à être appelée pour faire des échos, ou là, pour faire la FIV, il n'y avait aucun problème. Donc, j'avais déjà ça en moins à penser. Le lendemain, on était parti pour faire la FIV. Pour faire le transfert, c'est vraiment très rapide. Ça prend 3-4 minutes. C'est indolore, en tout cas pour celui-là, pour la première FIV. Et puis, on repart avec... ça, c'est assez spécial à se dire, mais on repart avec un embryon dans l'utérus. Là, on le sait qu'il est là, mais on ne sait pas s'il va tenir. C'est ça Alors, l'incertitude, là encore.
Tu te sens comment du coup? Excitée, anxieuse
Super excitée, c'est-à-dire que moi, juste après qu'ils aient fait le transfert, ils nous laissent un petit moment parce que de mémoire, je devais rester allongée une dizaine de minutes avant de me relever. Puis là, moi, les larmes aux yeux de me dire ben, en fait, je suis enceinte là. Voilà, c'était, je pense que c'était comme l'aboutissement de tout ce parcours. Ouais. Puis avec mon compagnon, on était vraiment très, très, très émus pendant cette première fécondation in vitro. Mm-hmm. C'est ça. Après, il fallait attendre plusieurs semaines pour pouvoir faire le test de grossesse et donc voir si ça avait tenu ou pas. Donc là, c'était des jours d'attente assez long. Difficiles.
Ben oui, j'imagine. Et alors, du coup, donc le test de grossesse, il se fait donc par dosage sanguin de la bêta-HCG. Oui. Est-ce que tu as craqué et tu as essayé de faire des tests maison avant, les tests urinaires ou pas du tout?
C'est sûr que j'ai craqué avant, mais pas beaucoup avant. J'ai vraiment craqué parce que je pense 2 jours avant de faire ma prise de sang. Puis le test était positif, mais pâle. Donc, après ça, je suis allée faire la prise de sang, puis ça s'est avéré que la première avait fonctionné. Donc là, gros débordement de joie, ouais, vraiment. C'était comme, ok, là, c'est bon, c'est parti. Et puis, quand on est en PMA, même si c'est le tout début, on le dit à nos proches, de toute façon, ouais. Ils le savaient qu'on était la fille tel jour. On n'attend pas 3 mois pour le dire. Tout le monde était au courant. Ou presque, que ça y est, ça avait marché, puis que ça avait fini par tenir, surtout. Donc, c'est ça. Ouais. Après...
Là, vous étiez à combien de temps, du coup, depuis le début où vous aviez essayé de concevoir?
On avait commencé début 2010, puis là, la FIV, on l'a faite. La petite histoire qu'elle est avec ce parcours de première FIV, c'est qu'on s'est mariés en août 2012. Donc, j'étais enceinte de 1 mois. Mon fils est de 2013, on s'est mariés en 2012, ça faisait 2 ans et demi et pas 1 an et demi.
D'accord.
J'ai oublié. Et en fait, on s'est mariés un mois après avoir la réponse de cette fille. Donc là, c'était 2 fois plus de bonheur.
Bah, j'imagine. Et c'était prévu le mariage, vous le saviez
Le mariage était prévu. Par contre, on s'est toujours dit que quand on a su qu'on allait faire une fille et qu'on allait la faire fin juin, début juillet, on s'est dit ça sera le seul essai qu'on fera cette année parce qu'après, on se marie puis qu'on... On veut pas être dans les examens, dans les piqûres, puis tout ça.
Ouais.
Donc, en gros, on fait un essai là avant, mais après, on arrête pendant quelques mois. Ça, on était sûr de notre décision. Mmh. Puis, tout ça a marché. Donc, c'était vraiment chouette.
Génial. Voilà. Génial. Alors, comment se passe ta grossesse, du coup?
La grossesse se passe super bien. En plus, ce que j'ai apprécié du fait d'être dans le service PMA, c'est que j'ai été un peu plus surveillée, on va dire... qu'une grossesse standard, parce que moi, j'avais des échographies tous les mois. Donc, j'ai aimé ça. J'en ai profité, même si le bébé allait super bien. Tout se déroulait vraiment bien. C'était une belle grossesse. Donc, voilà. La seule chose, c'est qu'à la fin, j'ai eu une césarienne parce que j'attendais un gros bébé qui voulait pas descendre, mais c'était rien du tout, là.
Ça s'est bien passé.
C'est comme secondaire. Oui, vraiment très bien. Donc, c'est ça. Donc, notre petit garçon est né en mars 2013, puis on était super heureux.
Mais génial. Il s'appelle comment?
Il s'appelle Malone. Mmh. Puis là, maintenant, il a 6 ans. Il va avoir 7 ans, là.
En mars.
Au mois de mars.
Génial.
Voilà.
Super. Et alors, on sait, donc tu nous l'as dit en début d'épisode, que tu avais 3 enfants. Quand est-ce que l'envie de bébé numéro 2 est arrivée? Et est-ce qu'elle est arrivée au même moment chez vous deux, d'ailleurs?
Ouais, on en parlait. En fait, on attendait que Malone ait comme 2 ans là pour se remettre un petit peu dedans. Donc en fait, on s'est dit bon ben, on a anticipé le truc. On s'est dit vu qu'on met du temps nous à avoir des bébés en 2014, en septembre 2014, on s'est dit on va recontacter notre médecin à la PMA vu qu'on est suivi puis qu'on a un dossier là-bas. Nous, on repart directement avec ce médecin là. Donc, on va contacter le médecin. Comme ça, ça va prendre son temps. Puis, pour essayer d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour Malone. Mm-hmm. Donc, on a pris notre rendez-vous en septembre 2014. Puis, le gros point positif, c'est qu'on avait déjà nos embryons. Vu que j'en avais eu 3, il y en a 2 qui ont été congelés. Donc, qui étaient là-bas, qui nous attendaient, en fait. Donc, ça a pris vraiment peu de temps. C'est-à-dire qu'après la consultation de septembre, j'ai eu une première fille. Une deuxième FIV au mois de novembre. donc 2 mois après. Et celle-là, elle a été très particulière parce qu'en fait, elle a été très douloureuse, chose qui normalement ne doit pas l'être. Yeah. Et elle n'a pas marché. Donc là, c'était... Mais ça allait moralement parce qu'on s'est dit, bon, ben, c'est la première, on recommence et on va laisser le corps s'habituer aussi. Puis c'est pas rare, c'est vrai qu'on a été super chanceux pour la FIV. Chez certains couples, ça prend beaucoup plus de temps à ce que la FIV fonctionne. Là. Donc on était. On s'est dit, ok, c'est pas grave. Après, on était très stressés parce qu'il ne restait qu'un seul embryon. Et puis que pour l'instant, on avait encore du mal à se dire qu'on allait devoir tout recommencer, la ponction, toutes ces choses-là, le don de sperme de mon conjoint. Donc, on avait ce petit stress au fond de nous dire, en gros, ben, il nous reste comme une dernière chance, là.
Ouais. On aimerait bien que ça marche cette fois-ci, quoi.
On aimerait bien que ça marche. Par contre, ce qu'on a aimé, c'est qu'ils n'attendent pas. C'est-à-dire que le cycle d'après, hop, on a refait la FIV. Mm-hmm. Donc là, c'était ma 3e pour le coup. Et qui a fonctionné pour le dernier embryon qu'on nous a mis. Donc voilà.
C'est génial.
Ouais.
Alors, donc super content. Finalement, ça marche presque plus vite que tout ce que vous espériez au moment où tu tombes enceinte. Comment se passe ton suivi là? Du coup, ça m'intéresse un petit peu. Tu fais une première, comme tu disais, on est suivi beaucoup plus souvent, de beaucoup plus près pendant les grossesses PMA. Ouais. Tu fais une échographie assez rapidement. Comment ça se passe?
Bah, en fait, là, j'ai eu la FIV au mois de décembre, début décembre, et il fallait attendre début janvier pour faire la première écho. Ouais. Et début janvier, donc on savait que 2 semaines après, on savait que j'étais enceinte. Donc, on savait que Malone allait avoir un petit frère ou une petite sœur si la grossesse se passait bien.
Un joli cadeau de Noël.
Ben, c'est ça. On était super heureux. Puis, début janvier, on est parti faire l'écho avec le même médecin qui nous avait suivis pour Malone. Et je me rappellerai toujours de cette écho-là. On en rit encore avec mon mari quand on en reparle. Puis, on s'en est reparlé hier parce qu'on en a parlé. C'était une stagiaire qui était là avec le médecin. Puis, c'est elle qui a fait l'écho. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps, mais pour notre plus grand bonheur, parce que moi, j'adore les échos. Mais il n'y a aucun problème pour ça. Et en fait, donc elle a dit, ah bah c'est super, il y a la poche, on voit bien, il y a le bébé. Puis, donc au début, c'est vraiment un rond, là, un mois après, on ne voit pas du tout de forme de bébé, c'est vraiment un œuf. Et là, il y a le médecin qui lui prend la sonde des mains, qui dit, attends deux minutes, puis qui va vérifier. Donc, nous, sur le coup, moi, je me suis sentie mal parce que j'ai cru qu'il y avait un problème.
Ouais, bah, j'imagine. Que
finalement, c'était pas le bébé qu'on voyait. Puis en fait, elle avait un sourire, donc on ne savait pas trop. Puis elle nous montre, elle rebouche, puis elle voit, elle dit, mais regardez là, il y a 2 sacs. Oh, elle appelle ça des sacs, hein, c'est comme leur, c'est comme leur jargon, il y a 2 sacs. Et en fait, elle nous explique, parce que nous, on comprenait toujours pas là, à ce moment-là de l'échographie, mais elle nous explique qu'il y a 2 sacs, donc il y a 2 bébés, il y a des jumeaux là qui sont nichés.
Alors qu'ils ne t'ont implanté qu'un embryon pourtant.
Alors, c'est ça. Donc, en fait, c'était... Même elle, là, elle riait d'émotion. C'était vraiment magique à voir. Nous, on comprenait toujours pas ce qui se passait. On avait du mal à intégrer le mot jumeau. Il n'y en a pas du tout dans notre famille. On avait remis un seul embryon. Puis là, on nous dit qu'on attend des faux jumeaux. Expliquez-nous, parce qu'on doit être un petit peu bête. Et en fait, elle nous explique que c'est très rare, mais ça arrive. Elle, c'est la 2e fois qu'elle le voit. Donc il y a un bébé qui est issu de la FIV, donc c'est l'embryon qu'on est allé remettre dans mon utérus qui était congelé, et il y a un bébé qui s'est fait naturellement en même temps, c'est-à-dire faut savoir que quand on fait la FIV, ben moi il me stimule pour me faire ovuler, pour recréer vraiment tout ce qui se passe normalement dans le corps d'une femme à ce moment-là, et on a dû avoir un rapport qui a fonctionné pendant ce moment-là.
C'est complètement dingue.
Il y a un ou deux bébés qui a été fait naturellement. Oui, c'est complètement dingue et c'est complètement beau de se le dire. Puis on n'a aucun moyen de savoir
lequel est lequel. C'est ce que j'allais te demander.
Souvent, on me demande. Alors, c'est d'ailleurs très drôle parce que il y en a qui commencent à faire des petits pronostics. Ah, mais tes garçons sont roux, donc eux, ça doit être la fille. Puis ta fille est brune, donc elle, ça doit être celle qui a été faite comme ça. Je dis non, c'est complètement faux. Il n'y a aucun moyen que les médecins s'entendent là-dessus. Ouais. Donc voilà, c'est ça, c'était la belle. Donc j'ai bien eu des faux jumeaux, j'ai un garçon et une fille, il y a zéro doute, et on m'a bien remis qu'un seul embryon parce qu'il m'en restait plus qu'un. Donc c'est la petite magie, on était super heureux. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est dit waouh, ouais, deux bébés, on a eu du mal à la... Mais en fait on s'est dit, on voulait trois enfants, depuis qu'on se connaît, on parle de ça, trois, quatre, mm-hmm. on voulait une grande famille. Puis on s'est dit, ben, on galère tellement là qu'on se serait arrêté à deux. Très honnêtement, avec le parcours PMA, moi, je n'étais pas prête à refaire ça ouais. une troisième fois. Puis on se dit, ben, c'est quand même super chouette ce qui nous arrive. Alors oui, c'est des jumeaux. Oui, ça va être une grossesse gémellaire. Donc, ben, on sait que ça peut comporter des risques aussi. Mm-hmm. Mais on est super chanceux. Je pense que c'est ce qu'on s'est ouais. dit. Donc, voilà, c'est ça. C'est la magie.
C'est génial. Alors, comment se passe du coup ta grossesse, ça a été?
Elle se passe super bien. Moi, je fais des gros bébés.
Toi, t'es zen, t'es pas trop stressée?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que pourtant, le médecin, l'obstétricien qui me suivait, qui m'avait déjà suivi pour mon premier bébé, lui, il m'a dit tout de suite, bon, ben, grossesse, gémellaire, ça comporte des risques. Puis, il commence par tous les nommer. Donc, c'est vrai que ça refroidit un petit peu. Il parle de néonat, ouais. il parle d'accouchement prématuré, puis tout ça. Mm-hmm. Mais en fait, j'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai fait deux très gros bébés. J'avais un ventre vraiment énorme, j'ai fait des bébés de plus de 3 kilos chacun.
Ouais. Et pour des jumeaux, c'est pas courant.
Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, j'ai accouché par césarienne, là encore, du fait de la taille de mes bébés, puis du fait que j'avais déjà eu une césarienne, donc c'était beaucoup plus sécuritaire, entre guillemets, pour lui. Mm-hmm. Et donc, j'ai eu deux très beaux bébés, un petit garçon et une petite fille, de 3,2 kg et 3,3 kg.
Super. Et ils sont nés à quel terme, alors?
Alors, ils sont nés 3 semaines avant, donc c'est...
Ah ouais, c'est vachement bien.
Ouais, c'est vachement bien, on les a tenus jusqu'au bout. Puis j'ai vraiment eu, mais pour les deux grossesses, c'était ça, mais les jumeaux aussi, une belle grossesse, c'est-à-dire que j'ai pas été alitée. Oui, j'étais fatiguée, j'avais les jambes qui gonflaient, puis en plus, c'était l'été parce que c'est des bébés d'août, mais c'était des belles grossesses. J'ai vraiment pu bouger jusqu'à la fin, donc ça s'est très bien passé. Vraiment.
C'est génial. Tu ouais. donnes presque l'impression que c'est facile d'avoir des jumeaux, ce que je trouve un peu fou, mais...
Voilà. En tout cas, mon expérience d'avoir des jumeaux, la grossesse s'est super bien passée.
Bah, tant mieux.
C'est plus le après, c'est difficile.
Mais j'imagine, parce que surtout, on en discutait un petit peu avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. Tu as décidé de te rajouter un défi quand tes jumeaux sont arrivés. Qu'est-ce que tu as fait?
Ah, bah, c'est ça. Ben, on est parti à l'autre bout du monde. On s'est expatrié, en fait, ouais. Mais la petite histoire, c'est que ben, on a quitté la France pour venir s'installer au Canada, mais quand on a commencé les démarches, on ne savait pas qu'on allait avoir des jumeaux. On pensait partir à trois, puis continuer nos projets de famille au Canada. Puis quand ils sont arrivés, ben, on les a vite rajoutés dans les papiers, puis on est parti quand ils avaient 6 mois. Donc oui, c'est ça, c'était une sacrée aventure, mais tu dis ça paraît fou, mais même nous, quand on y repense avec mon mari, on se dit mais comment on a fait une expatriation avec 3 petits loulous qui n'allaient pas à l'école, dans un pays où on n'a pas de famille. Bah, c'est ça, on était un peu fou. Mais bah, on ne le fait pas en tout cas.
Bah, c'est super, en tout cas, vous avez l'air heureux et ça fait du bien.
On est super heureux.
Tu as l'air très ouverte sur la PMA, tu as l'air d'en parler pas mal. Tu disais tout à l'heure que la directrice de ton école, alors je sais plus si c'était à Grenoble ou à Lyon, était au courant. Donc tu en as parlé très rapidement à ton entourage et professionnel et personnel?
Alors très rapidement à ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes sœurs ont été au courant tout de suite. Parce qu'on est très proches, puis bah, parce que commencer un suivi PMA, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Donc moi, j'avais besoin d'en parler. La mère de mon compagnon aussi était au courant. Notre famille vraiment proche le savait. Après, c'est vrai que moi, j'avais un lien très particulier avec mes collègues et ma directrice en France. Dans ma petite école, là, on était très proches et elles étaient au courant. Elles me soutenaient. C'était vraiment important pour moi. Donc oui, on en parlait, puis j'en parlais ouvertement. Mes amis les plus proches aussi étaient au courant. Donc, puis ça évite aussi toutes les questions sur, comme le titre de ton podcast, hein, c'est pour quand, ouais. c'est pour bientôt, à quand un bébé, j'y ai pas eu droit. J'ai même eu, moi, l'effet inverse, c'est-à-dire que des amis très proches, des couples très proches de nous sont, les filles sont tombées enceintes, puis c'était difficile pour eux de nous l'annoncer, parce qu'ils savaient qu'on était dans un parcours PMA.
Ah, ouais.
Donc, c'est plus le côté, on essayait de nous ménager, mm-hmm. et puis de nous dire, voilà. Donc, ça, c'était le côté un petit peu plus difficile. Mais oui, je suis très ouverte, puis je trouve que d'en parler, on se rend compte que en fait, il y a plein de monde qui vit ça, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'en en parlant, je me rends compte que la sœur de telle amie aussi, elle est passée par là. Le beau-frère et sa compagne, ils sont en plein là-dedans. Puis, ouais, on n'en parle pas et pourtant c'est vraiment présent et j'ai l'impression de plus en plus en fait. Donc, si ça peut aider, si on peut partager nos impressions, notre parcours du combattant comme on l'appelle avec mon mari, on le partage. Vraiment.
C'est super et ça fait du bien, ça donne de l'espoir aussi.
Il faut en avoir, il faut en garder tout le long, même quand ça ne va pas bien. Je le sais que... S'il y a des personnes qui écoutent puis qui sont en plein là-dedans, ça peut paraître dur de se dire ça, mais nous aussi, on a été au fond du trou. Nous aussi, ça n'allait pas. On était prêts à tout abandonner dans nos parcours PMA, à en pleurer, à se disputer. C'était vraiment intense. Mais une fois que c'est fait, on garde que le meilleur puis on n'hésite pas à s'y replonger pour faire un deuxième. Donc, c'est lourd, c'est sûr, mais c'est très beau. Ouais. Et on a quand même été chanceux parce qu'on a... Ça a quand même vite abouti pour nous dans notre parcours, même s'il est long, au final, on a vite trouvé des réponses. Donc, voilà.
Et alors, donc, du coup, tu abordes un sujet dont je voulais te parler. Vous avez l'air très soudée avec ton mari. Vous avez l'air aussi de grands optimistes. Mais tu disais, c'est vrai que voilà, passer par un parcours PMA, ça peut être très éprouvant pour le couple. Comment est-ce qu'on prend soin de son couple? Tu peux partager ton expérience là-dessus ou est-ce que tu as des conseils à partager là-dessus?
Ouais, c'est vrai que c'est vraiment difficile ce côté-là. Nous, on était comme un vieux couple, c'est-à-dire que moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans. Il en avait 19, donc on se connaissait depuis longtemps quand on a voulu commencer à avoir un enfant. On se connaissait par cœur. Oui, c'était dur, mais on avait tellement une envie de fonder une famille forte qu'on est resté soudés, on est optimiste de nature, c'est vrai. Donc même quand ça allait pas, y a toujours l'autre qui essayait de remonter le moral. Puis on alternait le rôle, c'est-à-dire que voilà, même quand ça va pas, on essaye de prendre soin de l'autre. Pour ce qui est des petites astuces, des petites recommandations, c'est juste, faut garder le dialogue, c'est super important. C'est-à-dire que moi, à de nombreuses reprises, je lui ai dit que ça n'allait pas, je lui ai dit que j'avais mal au ventre, que les piqûres, j'en avais marre, que j'avais l'impression de voir plein de médecins, que j'avais plus d'intimité. Faut vraiment garder le dialogue, faire les choses à deux. Pas oublier aussi la place des hommes dans la PMA, elle est très difficile aussi. Oui, nous, notre place de femme, surtout quand le problème vient de nous comme moi, c'est difficile, c'est invasif, etc. Mais mon conjoint l'a super mal vécu, puis c'est un peu plus tabou pour lui d'en parler. Donc, faut pas hésiter à garder la discussion. C'est ça, je dirais de parler, de se garder des moments. En plus, nous, pour tout ce protocole-là, on n'avait pas d'enfants, donc on était que tous les deux, d'essayer de se faire des... Nous, on a voyagé, c'est ce qu'on a fait. On se faisait des petits voyages à Londres, on se faisait des petits voyages en Écosse, en Italie. On a fait pas mal de choses pour se vider la tête. C'est vraiment ça.
Ouais, et chouchouter votre couple.
Chouchouter notre couple, c'est ça. Et en fait, d'en parler, le fait que ça soit pas secret, ça permettait d'en parler aussi avec nos parents, avec nos proches. Donc, c'est important. Faut pas rester dans sa bulle surtout.
Ouais. Et justement, alors ça m'amène à une autre question. Est-ce que à un moment vous avez eu ou est-ce que vous avez considéré avoir soit personnellement, soit en couple, une aide psychologique ou des médecines douces pour vous aider un petit peu à lâcher la pression?
Sachez que ça se fait beaucoup. Nous, on a juste eu au tout début du parcours PMA une rencontre avec un psychologue pour justement connaître notre état d'esprit en entrant dans ce protocole-là. Après, pendant le protocole, on n'en a pas eu besoin, mais il faut vraiment savoir qu'ils sont là, ils sont présents. Il y a toujours des psychologues qui sont dans les centres de PMA, les rendez-vous se font. Nous, on ne l'a pas fait, mais parce qu'on n'en avait pas le besoin. Mais je sais que ça se fait beaucoup.
D'accord, ok, très bien. Écoute, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Tout a l'air d'aller plutôt bien là pour vous cinq.
Bah, tout a l'air d'aller bien, oui, ça va bien. Bah, de l'énergie pour continuer à élever nos trois loulous. Ouais. Mais non, continuer notre route, on est vraiment heureux, on aimerait que ça continue comme ça. Puis voilà, mais c'est gentil en tout cas.
Bon, eh ben écoute, j'espère que tout continuera comme ça alors. Écoute, merci beaucoup Claire d'avoir partagé ton témoignage, d'avoir partagé aussi voilà, tes doutes, tes difficultés, tes joies. Je pense que ça aide énormément à se projeter et à libérer la parole autour de tous ces sujets. Donc un grand merci Claire, bonne journée.
Merci Anne-Claire, toi aussi.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez le podcast un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.